France Culture, 18h passé 18 minutes, l'actualité des industries culturelles et du numérique, première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs, Manuel Paquet de l'Express, Zoé Fès de France Culture et en guest spécial Nicolas Prinsen. Son livre pénètre la vie secrète des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Yann Lequin vient de publier « Quand la machine apprend, la révolution des neurones artificiels de l'apprentissage profond ». Il était d'ailleurs l'invité des matins de France Culture pour en parler. Le livre est profond, c'est le cas de le dire, bourré de mathématiques. Moi, j'ai rien compris. Et pourtant, j'ai un bac S. C'est pour dire. Mais nos chroniqueurs, eux, l'ont lu. Emmanuel Paquet, Nicolas Prinsen, vous êtes retourné en maths sup et en maths P, Emmanuel.
Bah, moi, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc, si une prépa aura suffi, une prépa HEC économique. Donc, j'ai tenté effectivement de me plonger.
Oh, le frimeur. Mais une prépa, ça veut dire que vous n'y êtes pas allé.
Si je suis allé, mais je ne suis pas resté. Donc, effectivement, il y a beaucoup de. Alors, il y a une première partie biographique qui est assez intéressante sur d'où vient la plus accessible pour commencer, et puis nécessairement la plus intéressante puisqu'elle explique un petit peu la logique qui a amené ce petit Normand aujourd'hui à être à la tête d'un laboratoire à New York, d'être professeur à la New York University, d'être à la tête de FAIR, qui est aujourd'hui quasiment le plus grand labo d'intelligence artificielle au monde, au sein de Facebook, en concurrence directe avec Google et d'autres grands acteurs américains et chinois. Donc aujourd'hui, c'est un Français qui a un pouvoir extrêmement important, qui est en lien direct avec Mark Zuckerberg chez Facebook, même s'il ne le voit plus qu'aujourd'hui que 2 à 3 fois par an. Donc cette histoire-là, quand même, d'un petit Français qui part aux États-Unis et qui a un tel poids, qui reçoit le prix Turing de l'intelligence artificielle avec ses deux confrères, donc Yoshua Bengio, qui est aujourd'hui donc lui aussi d'origine marocaine, installé en France, puis parti s'installer à Montréal il y a déjà plusieurs années de cela, et qui travaille aujourd'hui à l'Université de Montréal, donc qui est resté vraiment dans le domaine universitaire, et Geoffrey Hinton, qui aujourd'hui travaille dans les labos de Google à Toronto sur l'intelligence artificielle, comme le disait tout à l'heure Zoé, sur un des domaines de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage profond. Et c'est vrai que Yann Lequin dresse dans ce livre toutes les techniques existantes autour de l'intelligence artificielle pour démontrer que simplement, bah, quand une machine apprend, ce n'est pas de la magie, mais des mathématiques, avec des mathématiques qui sont pensées en amont, avec des échantillons d'images, de sons qui peuvent être donnés à une machine pour lui apprendre justement à apprendre et lui apprendre à reconnaître ces sons, à reconnaître ces images. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a beaucoup d'humains parce qu'on apprend que finalement, bah, ces images, ces photos, ces sons qui peuvent être mis en place et entraîner la machine sont en fait...
Il y a des photographes qui les ont prises.
Ouais,
ils
sont tagués humainement aussi, ils sont tagués par des humains. Même nous, aujourd'hui, on le fait.
Voilà.
Donc nous-mêmes, on le fait aujourd'hui en allant sur Internet. Quand on vous demande, vous savez, de rentrer un mot de passe et que dans ce mot de passe, après, on vous demande de regardez, vous voyez pas telle image, sur combien d'images vous voyez par exemple une voiture, vous cliquez dessus, en fait vous savez pas, vous êtes en train d'entraîner une intelligence artificielle à l'autre bout et gratuitement. Donc voilà, parce que ça a un coût. Ce qui est important aussi dans son livre, c'est le rapport entre coût efficacité qui est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui la plus belle machine reste quand même le cerveau humain qui peut produire et reconnaître à peu près tout avec une consommation énergétique qui est relativement faible. Et ça aujourd'hui, la science n'arrive pas à le faire, à répéter ce genre de choses. En revanche, on s'approche de certains éléments de reconnaissance, la reconnaissance faciale dont on peut parler, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission, la reconnaissance vocale qui permet aujourd'hui des systèmes de traduction automatique. Donc on a en fait des intelligences artificielles qui sont spécialisées dans des domaines, mais aucune aujourd'hui qui ne soit généraliste et qui puisse faire tout correctement. Donc ce sont encore des programmes plutôt idiots, spécialisés, extrêmement puissants lorsqu'ils sont spécialisés, mais jamais généralistes. Et c'est ce que dépeint aujourd'hui Yann Lequin, en essayant aussi de se projeter dans l'avenir, en essayant de voir est-ce qu'un jour on pourrait avoir une intelligence artificielle généraliste et qui apprend par elle-même, qui apprend seule à évoluer, sans avoir une technique d'apprentissage profond, ou une autre, qui est une autre technique, celle de l'apprentissage par renforcement, qui est aujourd'hui une des plus connues et des plus poussées par DeepMind, puisque vous savez, le joueur d'AlphaGo, AlphaGo a battu le joueur mondial à plusieurs reprises dans le jeu de Go, justement, et peut même jouer à tous les jeux Atari, bien mieux que tous les meilleurs joueurs au monde des jeux Atari. Donc on voit que cet apprentissage-là est un bon apprentissage aussi qui est important, mais ne peut pas résoudre tous les problèmes.
Zoé Fès.
C'est un livre. Je conseille quand même d'essayer de le lire. Il est clairement assez rebutant à certains endroits de son passage, mais quand même, c'est un livre important parce que parce que la personne qui nous parle, Yann Le Carre, donc, a tendance à rentrer dans des détails de mathématiques qui peuvent clairement vous effrayer, mais on commence, on met le doigt sur des questions très bêtes, c'est-à-dire les réseaux récurrents, les réseaux convolutifs, qui sont convolutifs, c'est les réseaux sur lesquels lui a le plus travaillé. On voit effectivement à quel point l'intelligence artificielle, qui il explique très bien, Yann Le Carre, a été basé beaucoup sur la logique, a véritablement connu un vrai virage, et il fait partie des gens qui lui ont permis ce virage, en essayant effectivement de mimer le fonctionnement du cerveau humain, qui est probablement le fonctionnement le plus intéressant à suivre. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on rentre un peu dans le détail, on comprend qu'effectivement, on est dans du mimétisme du cerveau humain, mais on n'est pas du tout sur du cerveau humain. L'intelligence artificielle, il le dit à plusieurs reprises, est plus spécialisée que jamais l'homme ne sera, c'est-à-dire qu'elle est plus spécialiste, mais pour le moment, elle n'a aucun moyen d'être généraliste. Et ça, c'est très important. Elle n'a pas de représentation intuitive du monde. Et ça, c'est une des données fondamentales. Et on ne pourra pas, en tout cas pour le moment, on ne peut pas, et c'est ça qui est incroyable, il dit, c'est pas les bons technologiques et les avancées technologiques qui vont nous permettre d'arriver à une IA généraliste, c'est des bons conceptuels. En gros, plus on comprendra le cerveau, plus on pourra l'imiter. Mais aujourd'hui, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus pour arriver à ce qui est son rêve à lui. Il le dit, et c'est peut-être moi une de mes principales critiques sur ce livre, lui rêve d'arriver à ce qu'il appelle un apprentissage auto-supervisé, parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage par l'IA, il est supervisé par des humains. À terme, il pourrait s'auto-superviser tout seul. Et là, on commencerait à toucher du doigt une intelligence artificielle qui pourrait avoir les mêmes capacités que nous. On n'a pas aujourd'hui les moyens d'égaler ce qui se passe dans le cerveau d'un bébé. Voilà, il a la fascination pour le cerveau du bébé, qu'on ne comprend guère, et qui, si un jour les changements conceptuels, c'est-à-dire des bons conceptuels et non pas technologiques, advenaient, pourraient en tout cas donner le jour à des intelligences artificielles qui pourraient alors nous imiter ou pas, qui pourraient en tout cas avoir un sens moral, par exemple. Ça fait partie des inconnus. Ce qui est pratiquement peut-être la principale critique sur ce livre, il y a tout un dernier chapitre qui s'appelle « Enjeux » et une conclusion qui dure à peu près 2 lignes. Donc, c'est un très bon ouvrage de pédagogie qui nous permet aussi de lever certaines inquiétudes qu'on a sur cette idée d'intelligence artificielle. Yann Le Carre fait partie des gens qui disent « l'intelligence artificielle est quand même une intelligence ». Certains vous disent « c'est pas du tout l'intelligence ». Si, c'en est une. Elle n'est pas du tout en rapport pour le moment avec une intelligence humaine. Je trouve que ce livre aurait mérité nettement plus d'investigation sur les enjeux, sur les limites, sur les biais. Disons que le fait d'expliquer qu'on n'y est pas tout de suite lui permet d'une certaine manière de balayer un petit peu les principales critiques ou les biais qu'aujourd'hui on peut attribuer à l'IA. Et ça, en l'occurrence, le fait qu'il soit toujours chez Facebook et qu'il soit effectivement un pionnier scientifique, il met la veste du scientifique. Et moi, j'ai un petit peu de mal et j'ai un petit peu de frustration sur ce livre quant au fait que c'est la personne qui probablement a la meilleure vision aujourd'hui pour penser ces questions-là et qui s'en décharge assez facilement.
Nicolas Prinsen, un autre petit Frenchie qui a réussi, lui, à Londres, fondateur de la start-up Gloze, qui a aussi lu ce livre.
Oui, alors très peu par rapport à Yann Le Carre, je pense qu'il n'y a pas de comparaison, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que, bon alors, pourquoi Yann Le Carre est-il chez Facebook? C'est une question qu'on peut toujours se poser. D'une part, il y a une question des moyens extraordinaires que développe une entreprise comme Facebook et les GAFAM en général pour accueillir de la recherche et la valoriser, même avec toute l'incertitude que cela suppose. Mais inversement, parce que un endroit comme Facebook est absolument fantastique pour un chercheur dont les recherches viseraient à connaître et voire à prédire le comportement, en l'occurrence, du cerveau humain. Facebook met au contact la recherche avec ce genre de questions. Après, c'est un saut gigantesque qu'il décrit très bien entre connaître et prédire, et puis reproduire les mécaniques du cerveau humain et les comprendre. Les comprendre, c'est-à-dire en fait, quand on le lit, comprendre ce qui est spécifiquement humain et non reproductible par la machine. Et je crois que la grande question philosophique de notre temps qui s'avance devant nous, c'est vraiment celle-là. Qu'est-ce qui est spécifiquement humain? Et quelque part, des gens comme Yann Le Carre, avec toute leur science et toute leur technique et toute leur mathématique, nous aident en quelque sorte par défaut, par un jeu d'ombre, à nous dire, voilà le territoire que nous on va explorer, les limites de ce territoire sera peut-être la définition de l'humain.
Mais c'est même plus que l'humain, c'est qu'est-ce que le vivant, lui il le dit, c'est les trois questions qui continuent à m'obséder. Qu'est-ce que le vivant? Parce que Elia ne reproduit pas encore ce que peut faire l'humain, mais elle ne reproduit même pas ce que peut faire un animal. Et ça fait partie des représentations de tout ce qui relève du vivant et non de la machine.
Oui. Le bébé et la pieuvre sont toujours considérés comme les maîtres absolus de ces gens-là que l'IA est loin d'atteindre.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
18h28, seconde question, second sujet de l'actualité ce soir, l'ordinateur quantique. Alors on est toujours un peu technique, tout à l'heure on parlera d'éducation, c'est beaucoup plus simple comme sujet, mais on a suivi que l'annonce,
oh là là.
À voir, Google a fait la une des médias numériques fin octobre sur une annonce autour de l'ordinateur quantique, sans doute quelque peu prématuré, avec donc des ordinateurs du futur à côté desquels les plus puissants Mac ou PC seraient peut-être des objets d'enfants justement. Emmanuel Paquette, de quoi parle-t-on lorsqu'on annonce l'arrivée potentielle un jour de l'ordinateur quantique ?
Je vais essayer de vous expliquer ce que moi j'ai compris, c'est-à-dire je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Il faut savoir qu'aujourd'hui les ordinateurs ou les smartphones qu'on utilisent tous des transistors qui fonctionnent sur des réseaux binaires, c'est-à-dire des portes logiques qui sont ouvertes par des 0 et des 1. Donc voilà, c'est une séquence de 0 et de 1 qui permet aujourd'hui à vos machines de fonctionner. L'idée, c'est avec un ordinateur quantique, c'est de travailler non plus avec des bits d'information, donc des 1 et des 2, enfin des 0 et des 1, pardon, mais plutôt avec ce qu'on appelle des qubits, donc c'est les mêmes 0 et 1, mais qui peuvent avoir la même valeur au même moment, c'est-à-dire être simultanément 0 et 1. Je ne sais pas si vous connaissez l'état du chat de Schrödinger dont on parle en mécanique quantique, c'est-à-dire vous savez ce chat qu'on enferme dans une boîte, on ne sait pas si, et on lui met un brin d'uranium dedans radioactif, donc le chat peut mourir ou être mort, et on ne peut savoir l'état du chat que si on ouvre la boîte, et en mécanique quantique on considère que le chat est vivant et mort, donc il a les deux états simultanément. Dans un ordinateur quantique c'est la même chose, le qubit fait 0 et 1 en même temps, donc on est dans une autre logique. Ce qui permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus rapidement en termes de calcul. Et c'est là que Google a effectivement expliqué qu'ils ont réalisé un premier calcul qui leur a pris 3 minutes 20, alors que pour un supercalculateur, en l'occurrence celui d'IBM, il aurait fallu 10 000 ans. Alors IBM s'est empressé de rectifier en disant « mais notre supercalculateur Summit a été mis à jour, et en réalité, avec cette mise à jour, il ne nous faudrait que 2,5 jours pour arriver au même résultat ». Et ce que ne disait pas Google avec la NASA, hein, puisque c'était une annonce concomitante entre les deux entreprises, c'était de dire que cette prouesse technique a été faite avec un type très particulier d'informatique quantique, et surtout avec un algorithme précis, quantique lui aussi, donc qui ne fonctionne avec ce type de machine, mais qui ne sert quasiment à rien. Donc c'est une démonstration un peu inutile et marketing, mais juste pour montrer qu'une prouesse technique a été faite par Google.
Mais qu'est-ce que ça va ou ça pourrait changer pour l'informatique et donc pour le fonctionnement de nos sociétés à l'avenir ?
Alors pour l'instant, l'idée de ces ordinateurs quantiques, c'est plutôt qu'ils restent chez Google et IBM et les mettre à disposition du public en location, donc dans le cloud, hein, comme on dit, pour utiliser cette puissance de calcul. Et c'est une puissance de calcul qui peut être utilisée, par exemple, en biologie, pour, vous savez, sur tout ce qui est travail sur les cellules ou les molécules, pour voir un petit peu les formats qu'ils peuvent avoir ou le déroulement, par exemple, de molécules de synthèse. On a besoin d'extrêmement de beaucoup de calculs, et là, l'informatique quantique peut aider et avoir des résultats beaucoup plus rapides que l'informatique traditionnelle, où là, il faudrait des capacités extrêmement importantes et beaucoup de temps pour arriver à un résultat.
Nicolas Prinsen, est-ce que c'est une mutation qui met en jeu, comment dire, les principes physiques fondamentaux d'une certaine manière ?
En tout cas, c'est un saut absolument incroyable. Alors, je ne suis pas sûr que Google ait voulu marketer l'information au sens où l'article a été publié par la NASA puis retiré aussitôt. Comme si, quelque part, on cherchait soit à cacher un résultat qui n'était pas encore validé scientifiquement, soit on cherchait à cacher un résultat qui était tellement énorme qu'il fallait peut-être préparer une vraie communication autour pour éviter les critiques sur la surpuissance existante ou à venir de Google. Mais en tout cas, si c'est avéré, c'est quand même un changement absolument extraordinaire qui va prendre forme et qui va se matérialiser peut-être dans les 5-10 années qui viennent dans notre quotidien. Mais c'est avant tout une extraordinaire bonne nouvelle, au sens où un saut technologique comme celui-là permettra en gros à l'informatique de traiter des problèmes beaucoup plus complexes et beaucoup plus incertains, biologie moléculaire ou phénomènes quantiques liés à la physique quantique elle-même, qu'aujourd'hui on ne peut pas traiter, même si on avait 10 000 ans devant nous. Donc c'est avant tout une bonne nouvelle. Reste à voir si ce genre de technologie va devoir devenir un service partagé, public, parce que c'est assez nouveau quand même qu'une telle technologie d'une telle magnitude soit en gros propriété potentielle d'un Google, même si en l'occurrence ça a fait l'objet d'un partenariat entre Google et la NASA, dont je ne connais pas le détail exact, mais qui laisse à penser qu'il y a l'objectif ou l'horizon d'un, de servir l'intérêt général, américain, mais peut-être plus grand.
Mais justement, il y a une double information dans ce que vous venez de dire, effectivement, et sur la manière dont cette information a été donnée. Bon, la physique quantique et la mécanique quantique, qui sont liées mais qui ne sont pas tout à fait la même chose, font partie des champs où on attend le plus de découvertes, game changing, comme on dit, dans les 10 années à venir, où il y a encore un nombre d'inconnus absolument abyssal. Et là, ce qui était très intéressant, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire la NASA qui publie une info, qui la retire, le tout avec Google. On est très très loin des systèmes de sanctions scientifiques tels qu'on les connaît, publication, republication, on avise ses pairs, on revient, on repart. Et là, donc, il y a une espèce de double changement. Si c'est une information réelle, effectivement, elle est très importante. Et si c'est une information réelle et qu'elle est juste, on est vers un changement total de paradigme dans la manière dont, déjà, on a des acteurs différents et dont ces informations circulent ou ne sont pas validées.
Un mot peut-être, Pierre-François Mourier, je rappelle que vous êtes directeur général de France Éducation Internationale. Vous ne chantez pas de l'X, mais de... C'était quoi ? C'était agrégé de lettres classiques.
Classique, ancien élève de l'école en supérieur. Mon camarade Nicolas Princen étant BL, donc beaucoup plus compétent que moi sur ces sujets-là.
Donc vous comprenez quelque chose à l'ordinateur quantique.
Ce que je comprends, et je rebondis sur ce que disait très justement Nicolas Princen, c'est que même si on est au tout début, je rappelle que cette expérience, elle s'est faite à moins de 173 degrés, dans des conditions extraordinairement spécifiques, qu'elle n'a duré que quelques nanosecondes. C'est donc, on est encore très 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 loin d'avoir ça sur sa table de bureau. Il reste que la précipitation de la NASA, avant même Google, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, a publié l'information, montre qu'on est, comme tout à l'heure dans notre discussion sur l'IA, sur une question de souveraineté. C'est pas une question de technologie, c'est une question de souveraineté en gros des États, des nations. Et je pense qu'on aura abondamment l'occasion d'en reparler quand on parlera d'éducation et d'intelligence artificielle appliquée à l'éducation notamment.
Nicolas Princen, pour terminer.
Je suis 100% d'accord. Il faut bien comprendre qu'une déclaration comme celle-là, c'est l'équivalent aujourd'hui dans un monde numérique de planter un drapeau sur la surface de la Lune. On verra dans quelques années si ça se matérialise, mais il est possible qu'on se retourne dans quelques décennies sur l'histoire.
Ça a été la date.
Cet épisode commenté aujourd'hui sur France Culture, finalement, c'était l'amorce de quelque chose de gigantesque.
C'était la chute du mur de Berlin pour aller.
Chute du mur de Berlin avec deux drapeaux en toile de fond qui sont quand même les États-Unis et la Chine. Il faut bien l'admettre.
Ou pas.
Vous pouvez retrouver notre séquence actualité des industries culturelles et du numérique dans son podcast dédié, c'est sur le site de France Culture, page Soft Power. À suivre dans cette émission, Christophe Deloire, directeur de Reporters sans frontières, et juste après, Pierre-François Mourier pour parler de l'éducation du français. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur le lancement par Amazon, depuis quelques semaines, d'un service de musique en streaming en haute qualité audio, baptisé Amazon Music HD. Ça rappelle un peu ce que fait la start-up française Qobuz pour la musique classique ou même Tidal aux États-Unis, à savoir du son compressé au format HD, en l'occurrence FLAC, c'est le nom de la compression de fichiers, soit pour être encore un peu plus précis techniquement, un équivalent du son CD 16 bits à 44 kHz. Et parfois ça peut même aller beaucoup plus loin, on parle de 192 kHz. Alors sur France Culture par exemple, quand vous écoutez de la musique qu'on diffuse, c'est un son HD compressé à partir de notre DNC, la discothèque numérique centrale de Radio France, en WAV à 48 kHz. Cette autre résolution n'existe pas chez Spotify ni sur Apple Music, et c'est sur ce créneau donc qu'Amazon cherche à exister. En gros, c'est Qobuz avec la puissance d'Amazon. L'industrie de la musique est à cran et sur ces sujets qualitatifs et très vigilante à cette évolution de fond qui pourrait marquer un tournant, elle aussi, déjà pris modestement par Deezer et en qualité dite master par Tidal. En se positionnant sur ce créneau de la haute qualité sonore, Amazon peut contraindre ou pourrait vouloir contraindre Spotify ou Apple Music à suivre et donc à changer les règles du jeu. À ce stade, Spotify a, selon les chiffres disponibles, 232 millions d'utilisateurs chaque mois. Apple Music, 56 millions et Amazon Music, seulement 32 millions. Le géant est donc un nain face à l'européen Spotify, d'où cette nouvelle stratégie. Alors la qualité de la musique audio, évidemment, c'est un débat que les musicologues et même tous ceux qui écoutent de la musique considèrent comme un problème majeur pour tout amoureux du son. Le format MP3 est mauvais, surtout si on l'écoute via un téléphone portable. Et si les formats de compression du type Spotify ou surtout Deezer sont parfois un peu meilleurs que le MP3, ils ne sont pas convaincants pour les puristes. Le rocker Neil Young, par exemple, critiquait déjà le CD pour être d'une qualité sonore bien pauvre par rapport au vinyle. Beaucoup d'artistes continuent ce combat aujourd'hui et c'est aussi le nôtre à Radio France. Alors Steve Boom, le vice-président d'Amazon Music, vient d'affirmer que la haute qualité audio est le futur de la musique digitale. Et Neil Young, justement, salue cette initiative en expliquant que c'était la révolution, je cite, la plus importante pour la musique depuis l'arrivée du son digital il y a 40 ans. L'offre, précisons-le quand même, l'offre Amazon Music HD est différente de l'offre Amazon Prime, qui est moins chère mais beaucoup plus bas de gamme. Alors en réalité, la qualité sonore de la musique compressée est un problème complexe. Le niveau de compression du fichier audio joue un rôle majeur, mais également les haut-parleurs des ordinateurs, qui sont toujours désastreux, et bien sûr les écouteurs ou les casques utilisés. D'où la bataille d'Apple, par exemple, avec les AirPods pour iPhone, de meilleure qualité que les écouteurs Apple traditionnels branchés sur un iPod. Après, c'est aussi un débat parfois de puristes. Un bon ordinateur connecté à Spotify et à une chaîne IFI avec de bonnes enceintes offre un son que la plupart des amateurs de musique n'arrivent pas à distinguer d'un son CD, confirme plusieurs études. Zoé Sfez, sur ça, un mot sur le...
Mais alors, il y a deux choses. Alors, effectivement, vous l'avez dit, quand vous êtes sur des bonnes enceintes connectées de manière filaire, vous pouvez garder une très bonne qualité. Déjà, c'est très intéressant, mais c'est chouette qu'il y ait de plus en plus de créneaux qui soient investis sur cette haute qualité. On sait que Tidal, ça marche pas très bien. On sait que Qobuz a beaucoup souffert. Mais de toute façon, si à un moment donné, comme moi, vous avez par exemple une enceinte Bluetooth, vous perdez quasiment le bénéfice d'avoir souscrit à une offre avec de la vraie compression. Et puis, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que vraiment, il y a une volonté, bon, pour Amazon Music qui, comme vous l'avez dit, marche pas extrêmement bien, de s'afficher sur ce créneau-là. Il y a une deuxième chose que j'aimerais dire quand même, qui est que l'une des technologies les plus inventives et les plus importantes qui pourraient changer le plus du point de vue de l'audio depuis la stéréo, c'est le son binaural. Et le son binaural, ça reste aujourd'hui des endroits où on fait le plus de recherche et de développement. Vous savez, c'est ce son spatialisé dans vos casques. Pour le moment, personne ne semble encore investir cette nouvelle technologie. Là, on va voir si un acteur comme Amazon, qui est, on peut le dire, largement plus gros que Qobuz ou que Tidal, peut changer les choses, ou en tout cas remettre sur le tapis ce débat sur la qualité du son.
Emmanuel Paquette, pour terminer.
Oui, pour avoir discuté de ça avec des gens d'Amazon, en réalité, le premier usage, c'est l'assistant personnel, ouais. Alexa, ouais. Puisque c'est aujourd'hui ce que demandent les gens en priorité, c'est d'exécuter une musique sur leur assistant vocaux. Et sur les assistants vocaux, ces demandes changent et fluctuent en fonction des périodes de l'année. Par exemple, ils ont remarqué quelque chose aussi d'assez simple, c'est que, alors ils le disent pas officiellement, mais c'est que quand des gens veulent faire un bébé, ils demandent une playlist jazz sur Amazon, et donc ils ont créé des playlists jazz dédiées justement à des gens qui, à un moment donné, bah, ont envie de se rapprocher. Donc, ils sont en train d'apprendre via ces enceintes connectées à la maison.
On n'écoute pas la même chose le matin en se réveillant, voilà. Quand on est en train de
déjeuner.
Et du coup,
la qualité de son est importante en fonction des activités qu'on peut faire. Donc, je vous laisse le soin de juger pour ça l'heure.
Revenons pour conclure à la France où les vieilles canailles, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, regrettaient tous et le répétaient sans cesse la disparition du vinyle. Ce vendredi soir, d'ailleurs, sur France 3, un documentaire inédit de Nicolas Perre a retracé les 60 ans de carrière et les amitiés des trois chanteurs français qui se sont embrassés sur la bouche, d'ailleurs on s'en souvient. L'album et le DVD live du concert des Vieilles Canailles viennent d'ailleurs de sortir en qualité son HD. Voilà, alors sans doute l'âge du vinyle, du CD, du DVD, malgré un petit revival comme ça étonnant actuel pour le bon vieux vinyle, est passé de mode, mais la qualité sonore de la musique compressée a néanmoins un bel avenir devant elle. Et puisque je parlais à l'instant d'Eddie Mitchell, écoutez la puissance de la trompette ici, dans ce célèbre Super 45 Tour de 1988. Le trompettiste n'est autre qu'Ibrahim Malouf, ici diffusé en son HD 48 kHz sur France Culture.
Maman, je viens tout juste d'avoir mes 14 ans. Je veux plus d'école, je suis devenu grand. Je te promets, je te gagnerai plein d'argent. Maman, je viens de fumer ma toute première week-end. Sur les fortifs où t'aimes pas que je traîne. Mais je me serais tué plutôt que de refuser. Oh. Y'a pas que les mères qui font les enfants. La zone, la rue coule dans mon sang. Maman, j'aimerais chanter tout ce que ressentent les autres. Ta vie, la nôtre. Of veux pas.